C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Bonjour, nous allons parler ce mois-ci d'Edmond Lassalle, qui est un pionnier de l'aéropostale. Nous devons ce travail de mémoire à notre regretté Henri Soula, qui fut le secrétaire de notre association d'histoire et tradition carbonaise. Edmond Lassalle est né à Pessis en 1901, tout proche de l'église d'ailleurs. Ses parents, cultivateurs, vont quitter Pessis pour l'Avernose. Ceci à la veille de la Grande Guerre. Edmond connaîtra le travail de la terre, des moissons, les vendanges et aussi la garde du troupeau. Après le certificat d'études, ses yeux se tournaient déjà vers le ciel, d'autant que, alors, les exploits de l'aviation atteignaient nos campagnes. Ainsi, Brin de Jonc des Moulinets faisait une démonstration étourdissante à Montesquieu-Volvestre, en août 1911. Il atterrissait, décollait, entouré d'une énorme foule. Védrine, lui, réussissait le premier tour de France aérien. Blériot se produisait sur le terrain de Pau. Tous ces faucheurs de marguerites suivaient la Garonne. Et l'étape Toulouse-Montrégeau est restée célèbre. Après la Grande Guerre, Toulouse introduit la construction aéronautique et toute la région observe les biplans Samson A2, fabriqués en série par la Técuère. 512 avions de ce type seront construits à la fin de la guerre. Les exploits des pilotes Guinemer, Fonck, Nungesser sont bien connus. Edmond souhaite bien réaliser sa vocation. Sans la moindre ressource, seule l'armée peut offrir ses portes aux jeunes passionnés. Edmond Lassalle signe son contrat d'engagement de 3 ans le 1er mars 1921 comme ouvrier d'aviation. Il rejoint ainsi son unité à Cazaux. Edmond n'avait pas froid aux yeux. Son engagement ouvrier d'aviation est la seule voie susceptible de l'amener vers son idéal. À quel prix ? À Istres ? 17 pilotes se sont tués en 3 mois. Les appareils sont anciens et ont beaucoup servi durant la guerre. Les instructeurs sont d'anciens officiers de guerre soumettant à des brimades et exposant les jeunes pilotes à des risques excessifs. Lassalle obtient néanmoins son diplôme de pilote et traversa toutes ces épreuves. Le 18 octobre 1922. Il fut affecté à un régiment de chasse. Son ami Mermoz, lui, dans un régiment de bombardement.
Ces merveilleux fous volants dans la grande machine, ils s'en vont tout là-haut pour nous faire l'oubli. Ils séduisent toutes les femmes lors de la chair de poule par les acrobaties de leur vieille cage à poule.
Hop là, l'air voilà.
En 1922, le 27 mai. Hetman est transféré au 1er régiment d'aviation de chasse à Thionville. Ce régiment était équipé d'avions Newport de l'âge. Ce sont des avions qui volent à 235 km à l'heure avec un plafond de 8500 mètres. Et il dit « Je suis maintenant sur un bon petit taxi ». Le 6 octobre 22, il reçoit le grade de sergent. Il effectue des stages de tir, d'acrobatie aérienne, des tirs sur ballon captif, des reconnaissances de terrain, d'usine, des cibles potentielles. Il fait aussi des vols de groupe. Mais il eut plusieurs fois à faire face à des pannes, des atterrissages accidentels, à bouler. Il ne fut pas blessé. À Thionville, Hetman fit de solides amitiés, en particulier Guillaumet. Ils se séparèrent pourtant. Henri resta dans cette escadrille alors qu'Hetman passait dans un régiment de bombardement. En ce qui concerne Guillaumet, il se signala en 1925 par un exploit. Il remporta la coupe militaire Zénith en volant sur 2810 km au-dessus de la France à la vitesse moyenne de 187 km 597 à l'heure. Nous avons une photo qu'il a dédicacée à son ami Hetman Lassalle. Un autre compagnon les rejoignit dans leur parcours, dans une autre escadrille. Et il s'agit donc de Jean Mermoz, qui allait devenir son camarade sur la ligne. Plusieurs incidents sont signalés, sanctionnant Lassalle pour inobservance des consignes. Son comportement à bord des avions fit l'objet de sanctions. 8 jours d'arrêt pour s'être livré à des exercices d'une virtuosité contestable et d'une inopportunité évidente. Enfin, le 8 mai 1923, il atterrit en campagne par sa faute. L'appareil est brisé. Le comportement de Lassalle peut paraître surprenant. Il n'est pas exceptionnel de la part de ces jeunes talentueux, pleins de fougue, et qui pilotaient de frêles machines ces biplans de la Grande Guerre. Pour faire entrer Lassalle dans le rang, il fut invité à demander son transfert à l'école de tir et bombardement de Cazaux, son ancienne base. Il eut ici des rapports favorables du commandant d'escadrille, car volant maintenant en biplace, il se familiarisera avec un Breguet 14. Alors, le Breguet 14. Il s'agit d'un avion robuste de 1800 kg, portant 430 litres de carburant, permettant de voler 5h30. Le moteur développe 300 chevaux. C'est un moteur soit Renault ou Lorraine Dietrich, de 12 cylindres en V. C'est un bombardier pouvant transporter 260 kg de bombes à 145 km à l'heure et à 5000 mètres d'altitude. Ces bombardiers étaient équipés également de lance-bombes placées sous les ailes, ainsi que d'une mitrailleuse Vickers qui tire à travers l'hélice. Lassalle effectua ainsi de nombreuses missions, plus de 40 vols, 153 heures de vol. Il fut démobilisé le 14 février 1924 avec un certificat de bonne conduite. Le même mois, il obtenait sa licence numéro 809, l'autorisant à piloter tous les types d'appareils commerciaux pour le transport public des passagers, de la poste et des marchandises.
Ce sont vraiment des lions, ces garçons magnifiques dans leurs très vieux avions.
Muni d'un brevet d'aviation civile, Hetman ne trouva pas tout de suite un emploi. Il retourna dans sa famille, vendre des peaux de bêtes à des fourreurs toulousains. Il travaillait la ferme du Tresquéry à Bérat. Tout cela pour financer des heures de vol nécessaires pour garder la main. Un an après, Edmond Lassalle entre au service de la CGEA, compagnie générale d'entreprises aéronautiques, compagnie qui succède aux lignes aériennes Latécoère, et il obtient son passeport le 9 avril 1925. Là, on se rend compte que le jeune pilote mesure 1,65 m, qu'il est châtain, aux yeux verts. Le patron, c'est Didier Dora. Il soumettait ses pilotes à un rituel bien établi. Vous voulez être pilote ? Commencez par être mécanicien. Ces stages de mécanique, avant de piloter, permettaient aux pilotes de mieux connaître finalement les moteurs et éventuellement de pouvoir se dépanner. D'autant que ces vieux breguets de l'aéropostal, encore en état de vol, furent transformés pour le transport du courrier. On ajoutait deux caissons, de part et d'autre de l'aile inférieure. Le nombre de pannes et des accidents amena les pilotes à se demander si la compagnie ne leur faisait pas courir des risques inconsidérés. Malgré tout, n'aurait-il pas été possible de remplacer plus tôt les breguets 14 ? Le potentiel de durée des moteurs ne dépassait pas une soixantaine d'heures. Et les radiateurs n'étaient pas conçus pour des températures extérieures si faibles. D'autre part, le sable du désert accélérait l'usure des fragiles mécaniques. Les breguets transportaient fréquemment des passagers aussi entre Toulouse et Casablanca. Au-delà, les avions volaient par deux. Embarquaient l'un un mécanicien, l'autre un interprète mort. Ceci au plan inférieur de l'avion, il y avait les coffres à courrier, bien sûr. Entre, on fixait une hélice destinée au dépannage, ainsi qu'un essieu du train d'atterrissage et une troisième roue de rechange. Tout cela n'améliorait pas, bien sûr, la performance de l'avion.
Quand il vole sur le dos avec les pieds au ciel, nous sommes suffoqués, pour eux c'est naturel. Plus lourd que l'air, ce n'est plus qu'une légende. Quand ces fous volants nous font la sarabande.
Quant au moteur des Renault 300 chevaux à 12 cylindres en V, pour le démarrer, il faut être deux. L'un injecte de l'essence avec une grosse seringue dans les pipes d'échappement et l'autre fait tourner l'hélice en sens inverse. Les nombreuses pannes sérieuses sont répertoriées dans le carnet de vol de Lassalle. Mais en aucun cas, on interrompait la livraison du courrier. On repartait aussitôt après réparation. Chaque avion emportait 5 jours de vivres et 10 litres d'eau. Depuis Agadir, après l'Espagne, on rejoignait Cap Juby, puis Villa Cisneros, Port-Saint-Louis, Saint-Louis, puis Dakar. Depuis Toulouse, cela correspondait à 4595 km, soit la largeur de l'Atlantique. Durant cette période, une vingtaine de problèmes obligèrent Lassalle et son équipage à se poser tout le long du parcours. Le 10 novembre 1926, un avion de la ligne eut une avarie en plein désert. Les morts firent prisonniers les occupants grièvement blessés. Lassalle et son interprète réussirent par un fait d'armes à récupérer les blessés, dont son ami Gourpe, qui mourra peu après. Ces pilotes étaient des aventuriers des temps modernes. Les primes de risque étaient élevées. La salle était à l'abri du besoin. Ils recevaient 2000 francs mensuels, auxquels s'ajoutaient les primes pour le Sahara, 1000 francs. Il aida donc ses proches et acheta une voiture de sport très appréciée pour l'époque par les jeunes fous du volant, une Amilcar CGSS, sport surbaissé, avec laquelle il fonçait dans les rues de Dakar. Il eut même une contravention. L'aéropostale avait enregistré le 28 janvier 1927 1561 heures de vol pour Edmond Lassalle. Mais le sort devait s'acharner sur lui. Il succombera le 14 octobre 1927 avec son mécanicien, des suites de ses brûlures, après avoir capoté sur le terrain de Thiès, près de Saint-Louis. Henri Guillaumet s'occupera de sa succession auprès de sa famille et conservera d'ailleurs la belle Amilcar. Edmond Lassalle ne verra pas la fin de l'épopée de l'aéropostale et l'ouverture de la ligne vers l'Amérique du Sud, exploit que réalisera Mermoz, ceci pour la première fois avec les LAT-28 dès 1930. Comme disait Jean Mermoz, l'accident pour nous serait de mourir dans son lit. Edmond Lassalle, enfant du Volvestre, fut un hardi pionnier de l'aviation. Né avec le siècle, il fit franchir une étape décisive au transport aérien. Lié par une grande amitié à Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry, il partit prématurément après avoir réalisé ses rêves d'enfant. Sa vie, trop brève, demeure exemplaire.
Aux ailes de géants.
franchir le long chemin qui conduit vers les planètes où les hommes vivront demain. Il est loin le temps petit où l'avion volait si haut qu'il fauchait les marguerites.
Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.